chers amis, bonjour. Merci de nous écouter sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, le 90.7. Et bien sûr, pour ce qui concerne Internet, eh bien c'est le www.rcn-radio.org. Marque-page, l'émission qui vous est offerte tous les jeudis soirs de 17h à 18h. Nous nous retrouverons tous les gens, tous ceux qui font que le livre existe en Lorraine. Émission, bien sûr, qui est rediffusée le dimanche de 15h à 16h. Aujourd'hui, marque-page un peu particulier puisque nous ne restons pas dans nos studios, mais nous allons nous rendre dans un endroit fort sympathique du côté des Trois Maisons, dans un petit restaurant. Laissez-nous cuire. Et ce restaurant n'est pas sans rappeler les caves de Saint-Germain-des-Prés. Alors dans ce restaurant là, nous avions convié un certain nombre de nos amis, lecteurs, auditeurs, et nous sommes retrouvés une petite vingtaine, une bonne vingtaine, autour de Rémi Debord. Rémi Debord que vous connaissez bien puisqu'il vient souvent nous voir à cette antenne, et qui nous présentait son dernier roman, Meurtre au Honeck, aux éditions Nereia. Nous entendrons bien sûr Rémi Debord, nous entendrons aussi le président de l'ADIL, Charles Ancé, et puis il y aura des questions, notamment notre directrice des programmes, Ariel Christoflo. Les textes que vous entendrez sont lus par Catherine Léninger et Suzy Debord, et l'ambiance musicale, parce qu'il y avait ambiance musicale, était absolument parfaite, et elle était due à l'invention, parce que c'est lui le créateur de ces musiques, l'invention de Didier Rousset. Allez, sans attendre, direction les Trois Maisons. Rémi est un écrivain prolixe puisque il a écrit des ouvrages.
C'est toi ? Non, c'est toi. Non, c'est
chaud. Hein, les premiers ouvrages qu'il écrivait étaient chauds, très chauds.
Très chaud, oui.
Ensuite, il a écrit des ouvrages qui étaient plutôt dans le fantastique, dans le fantasy.
Oui, non, j'ai d'abord écrit 2047, qui était un ouvrage de fiction, puisque ça se passait entre nos jours et 2047. Et ensuite, après, j'ai écrit Nereia, effectivement, qui est l'histoire d'une planète. Et puis après, je suis passé au polar, donc avec Meurtre à Arouet. Puis j'ai fait un détour par la poésie, avec Paranoscopie. Me voilà revenu au polar, donc avec Meurtre à Honeck. Et puis maintenant, donc auteur dramatique. Donc je pense que ça va m'occuper toute la saison déjà. Et puis après, je ferai peut-être un thriller intimiste. Ça s'est jamais fait.
Alors, Meurtre à Honeck, bon, c'est pas le premier de la série. Il y a eu un premier qui s'appelait Meurtre à Arouet, où on voit apparaître les premiers personnages. Mmh. Parce que tu t'es attaché à avoir deux personnages principaux.
Presque trois d'ailleurs.
Ouais, mais vraiment, qui sont aux antipodes l'un de l'autre.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a Malthus Krombert, qui est un détective privé, qui est le détective des stars. C'est quelqu'un qui travaille généralement dans les milieux très 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 aisés. Sa voiture par exemple a été recarrossée à Neuchâtel chez un très grand carrossier. Elle a été à qui il avait rendu service. Son moteur a été refait par en Allemagne aussi à un endroit où elle avait rendu service. Là, quand on commence Meurtre à Honeck, il revient du Moyen-Orient où il a retrouvé un faucon, le faucon d'un prince arabe qui avait perdu son faucon. Vous voyez, c'est un détective privé, il fait pas vraiment dans l'enquête de divorce, quoi. Il fait dans les hautes sphères. Et il y a le deuxième personnage qui est donc son pendant et son alter ego, qui est Pascal Martineau, qui lui est un gendarme. Donc un gendarme extrêmement sérieux, il était le patron donc de la gendarmerie d'Arouet, il était adjudant-chef, et donc ils ont fait une première enquête qui était Meurtre à Arouet, où ils sont mutuellement rendus service, ils ont fait une double enquête qui aboutit à l'arrestation des méchants. Et là, Pascal Martineau donc, a été muté dans les Vosges. Et puis là, il est devenu major. Et là aussi, Malthus Combert et Pascal Martineau vont finalement s'entendre parce que Meurtre Annexe, c'est une double enquête. C'est à la fois l'enquête sur un meurtre, comme son nom l'indique, qui est une pauvre fille qui a été retrouvée au pied du Honeck, un peu déchiquetée, peut-être par la bête des Vosges. Et de son côté...
C'est moins que l'on puisse dire, hein, qu'elle est un peu déchiquetée.
Et que... Oui, tout à fait. Et que c'est faux d'ailleurs. Alors là, c'est toujours les choses qu'on imagine, ça. Et en fait, je ne décris pas du tout, mais c'est vous. Je laisse les gens imaginer ce que... Donc, elle était avec cette pauvre fille. Et donc, Malthus Combert, lui, par contre, a été chargé par un de ses amis de retrouver sa fille. Sa fille qu'il a un peu délaissée, un peu oubliée depuis quelques années. Et puis, tout d'un coup, il se demande ce qu'elle est devenue. On lui a dit qu'elle traînait avec des mauvais gens. Donc, il s'en inquiète un peu. Et puis, donc, il a chargé son ami Malthus Combert de retrouver sa fille. Et donc, ces deux enquêtes vont à un moment se croiser, s'entrecroiser, puis finalement converger. Ce qui fait que Malthus Combert va s'occuper du beau cadavre bien sanguignolant, et puis que Pascal Martineau va être appelé à s'occuper de la fille de Roger Drabézian, donc qui est lui un personnage aussi un peu atypique, puisque c'est un ancien industriel dans la filature, qui a revendu son affaire, mais il ne restait plus grand-chose à faire vu qu'il sous-traitait un petit peu dans les pays de l'Est asiatique. Et qui, par contre, a conservé son usine dans laquelle il stocke des caravanes. C'est un collectionneur de caravanes. Il y a des gens qui collectionnent les timbres-postes.
Tu connais des gens qui collectionnent des caravanes ?
J'en connais un qui collectionne virtuellement des caravanes.
Ah, d'accord.
Qui est un grand spécialiste de la caravane.
Virtuel. Attends, il y a un collectionneur de tracteurs près de Sion.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait.
Non, moi j'ai un collectionneur virtuel de caravanes. Et donc celui-là, il collectionne vraiment les caravanes. Il en a, je ne sais pas, des centaines qu'il met dans des petits dioramas et qu'il fait visiter en voyage organisé. Voilà. Alors donc les autres personnages, c'est Maureen Vermeaux, qu'on ne croisera pas de son vivant, vu qu'on l'a retrouvée un petit peu déchiquetée. Non, c'est elle, hein, c'est toujours la même. Donc Maureen Vermeaux, c'est une petite comptable toute timide.
Comment tu l'appelles habite...
Maureen Vermeaux.
Maureen. Vermeaux.
Vermeaux, oui.
Comme l'almanach.
Ça ne s'écrit pas pareil, mais oui, j'y ai pensé. Et donc, c'est une petite comptable insignifiante dans le centre de la France, à Marvejols, qui se trouve dans le Gévaudan. Et puis, on la retrouve là, au pied du Honeck, dans des circonstances assez macabres. Et donc, on va essayer de reconstituer sa vie à cette pauvre fille. Elle a été trouvée donc par un ancien légiste qui s'appelle le docteur Pujol, qui était là, lui, pas par hasard, il était là pour chercher des brimbelles tardives au pied du Honeck. Et c'est comme ça qu'il a trouvé le cadavre. On a aussi un être un peu particulier, qui est Constantin d'Armélis, qui est, lui, gourou agriculteur. C'est pas courant. On a pour nous aider donc dans notre quête, puisque la pauvre fille déchiquetée, j'y reviendrai toujours, on a un spécialiste des fauves, il s'appelle Charles Darouin.
Il a acheté l'immeuble et les dépendances au début des années 60. C'est une maison bourgeoise à un étage, à la sortie de Harouet, due au crayon de Weissenburger, arborant trois fenêtres décorées par Gruber, une porte mêlant chêne, fruitier et vert fondu, attribuée à Majorelle, et un toit d'ardoise verdie. Dans les années 40, un original a fait ajouter une folie, une tour octogonale, en briques ocre, coiffée de tuiles peintes, au beau milieu de l'édifice, comme une sorte de clocher païen. Nul ne sait dire si l'ensemble est embelli ou alourdi par ce rajout. Mais cette demeure devient presque aussi connue que le château des Beauvaucroix, dû au génie de Beaufranc situé au milieu du bourg. L'intérieur est aménagé avec passion de quantités de meubles art déco et de quelques pièces plus contemporaines. L'homme a eu un peu de mal à s'intégrer dans ce village plus tout à fait rural, mais pas encore citadin, où les maisons se transmettent habituellement par filiation ou cousinage, et où un enfant né à la maternité de Nancy fait déjà figure d'étranger. Lui, le petit juif discret mais élégamment habillé, se sentait un peu exclu des cercles d'alliance ancestrale, mais une certaine célébrité fait souvent des merveilles. Partagé entre le judaïsme tiède de son père et le christianisme exacerbé de sa mère, il a été élevé dans une prudente laïcité. Malthus se rend rarement à l'église ou à la synagogue, à part pour certains événements incontournables de la vie sociale. Il est présent au mariage parce qu'il faut bien sacrifier un peu de sa personne pour espérer se voir servir une coupe de champagne bien frappée et des petits fours de grand faiseur. Hélas, la plupart du temps, le mousseux est tiède et les mignardises à peine décongelées. Il se laisse également tenter par les enterrements, afin d'estimer qui, parmi les assistants dociles de cette cérémonie triviale et hypocrite, tiendra le premier rôle lors de la prochaine représentation. Par contre, il fuit comme le choléra, les baptêmes et autres bar mitzvahs qu'il considère un peu comme la version humaine du marquage des veaux.
Voilà. Bravo. Donc, merci Christine. Ce qui me plaît dans l'écrit, dans le style de Rémy, c'est le souci de la description. Il n'y a plus beaucoup d'auteurs aujourd'hui, même dans les grands, hein, ceux qui étaient dans les travées du livre sur la place il y a 15 jours. Il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui ont ce souci de la description du mot juste et du mot exact. J'allais dire que Rémy est un auteur du 19e siècle presque, non ? Ça te fait de la peine si je dis
non,
ça, Rémy ?
Non, pas du tout, non, pas du tout, non. Non, Victor Hugo est né en 1802, ça me va très bien.
Ouais. Est-ce que tu te rapproches de cette écriture du 19e siècle ?
Peut-être pas. Enfin, si, dans la façon de formuler les choses, peut-être, oui, peut-être un peu Hugo, un peu Balzac, mais surtout peut-être surtout Steinbeck ou Hemingway, qui cherchaient surtout, en fait, au travers de leurs écrits, à décrire le monde, en fait, à décrire le monde et pas seulement ce qui est intéressant. Il décrivait surtout les travers du monde et les différentes couches sociales. C'est ce que j'essaye de faire. Or, peut-être pas dans Meurtre Honnec ou dans Meurtre à Rouet, parce que c'est pas ça ne s'y prête pas. Mais je fais ça très bien dans 2047, par exemple, ou dans Au nom du père, de la fille et du mauvais esprit, où là j'emmène couche et j'hésite pas à égratigner la société, quoi.
Revenons à Meurtre au Honnec. Tous ces personnages donc vont tourner, vont se croiser. Il y a plusieurs aventures, plusieurs drames même qui se passent dans ce Meurtre au Honnec. Et puis on va toucher au surnaturel, au paranormal.
Oh, paranormal, c'est peut-être un grand mot. Disons que oui, un des personnages centraux, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on commence, puisque le premier chapitre, il est situé en 1347, où là, une pauvre fille nommée Florine Mergotte va être brûlée, un peu comme Jeanne d'Arc, sauf que c'est un peu moins de 100 ans avant, pour sorcellerie également, un peu comme Jeanne d'Arc aussi. Et puis, on apprend d'après les attendus de la cause qui sont déclamés à voix haute par le héros, qu'elle a un peu dévoyé un clerc de notaire, un officier. Enfin, en fait, elle les a détournés, quoi. Elle est condamnée pour outrage aux bonnes mœurs et puis pour avoir donné son corps à Satan. Et donc, on va la brûler, mais là, il se passe un énorme orage. Ça se passe au pied du Honnec aussi, puisque tout se passe au pied du Honnec. Hein. Ça se passe sur le lac de la Lande. Et là, il y a un énorme orage d'été. Ça se passe donc le 13 juillet de 1347. Et il y a vraiment un orage épouvantable qui fait que ça ruisselle, qu'il y a des ruisseaux qui se créent, etc. Donc tout le monde fout le camp. Et quand l'orage se calme, les quelques survivants qui traînent s'aperçoivent que Florine Bergotte a disparu. Alors certains disent que c'est Satan qui est venu la chercher, bien entendu, et d'autres qui disent que c'est peut-être bien Jésus-Christ qui lui a sauvé la vie parce qu'il s'était offensé de tant d'iniquités. Et donc cette Florine Bergotte, on va la retrouver à différents stades de l'histoire. Je me suis beaucoup amusé, j'ai écrit quelques épisodes des évangiles. Donc c'est les évangiles selon Florine Bergotte, que j'ai conçu comme vous pourrez lire les évangiles. Et donc il y a quelqu'un, lui, vraiment y croit. C'est mon gourou agriculteur, Constantin d'Armélis, qui lui a fondé, qui a fondé une église. Ils sont une cinquantaine. Et en fait, c'est écrit dans le livre qui ne le quitte jamais, que le jour du jugement dernier, qui est dans pas longtemps, hein, attention, hein, méfiez-vous, hein, c'est du peu au jus, le jour du jugement dernier, Dieu et Satan seront là pour trier les âmes et dire celui-là je veux, celui-là je ne veux pas, et que ce jour-là, Constantin d'Armélis et ses 50 lieutenants seront là également pour eux, dire qui est méchant et qui n'est pas méchant. Et en plus, après, Dieu leur ouvrira l'Éden à nouveau pour qu'ils puissent repeupler la terre, parce qu'évidemment, il ne restera plus personne dessus. Voilà. Donc ils sont un peu allumés, c'est vrai, mais ils sont de bonne foi, je pense. Alors lui, il s'est quand même en prévision du repeuplement du monde, il s'est adjugé 5 femmes et il conçoit pas que ça soit autrement. D'ailleurs, il a promis à aux autres hommes qu'il leur donnerait aussi 5 femmes parce que c'est un minimum pour repeupler le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans l'immédiat pour en donner 5 à tout le monde, mais ça viendra un jour. Et donc, il recrute. Et parce qu'il y en a une, qui a disparu, alors on ne sait pas pourquoi, il y en a une qui est partie. Et c'est là qu'il recrute et il va trouver la pauvre Ingrid Spitmus, que tout le monde a trouvé très très amusante. Christine l'a trouvée désopinante, cette pauvre fille. C'est vrai que elle est gentille, elle est très très jolie, mais elle est totalement innocente et elle se demande vraiment ce qu'elle fout là. Et donc elle suit un petit peu, cette secte. En fait, on la suit un petit peu au travers des yeux de cette pauvre fille et vraiment elle se demande. Elle se demande ce qu'elle fiche là, et puis elle est un peu égarée. Et puis ça permet en fait de voir le rouage d'une secte de l'intérieur.
Alors, est-ce que tu avais envie de pousser le bouchon le plus loin possible, ou est-ce que c'est pour dénoncer un peu ce qui se passe dans certaines sectes sous la coupe de certains gourous ?
Non, ça tout le monde le sait. Et encore le mien, il est gentil, je le trouve.
Hein, oui, il est gentil.
C'est pas un méchant, hein. Il est un peu allumé, et puis je crois qu'il croit à ce qu'il fait, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les gourous, malheureusement.
Mmh. Ouais. On peut demander. Alors, il y a un moment quand les jeunes filles. On va écouter cet extrait dit par Marie-Christine. Par Christine.
L'été tarde à mourir et déborde sur l'automne. Malgré des nuits froides, on peine à croire que dans quelques semaines, la neige gommera ce paysage et que les skis remplaceront les petites chaussures colorées au pied des randonneurs qui dégustent leur bière à la terrasse du restaurant d'altitude du Honeck. Sur l'épaulement un peu plus bas, les tables et les chaises sont de sortie pour la fête. Les justes du Nouvel Éden ont revêtu leur tenue de cérémonie. Aubes blanches pour les femmes, pantalons de coutil grège et veste assortie pour les hommes. Tous portent le tablier de cuir des ouvriers du Seigneur et leurs pieds sont nus en signe d'humilité. Seules les épouses de Constantin d'Armélis sont habillées de vives couleurs. Mauve pour Audevert, jaune pour Clotilde, vert pour Brunehaut, orange pour Morgiane. La nouvelle Bertilla arbore une magnifique robe d'azur qui souligne sa belle silhouette longiligne aux courbes juvéniles, sa chevelure d'or pâle et sa peau laiteuse rehaussée de quelques touches d'incarnat. Jusqu'à cet instant, elle s'appelait Ingrid. Il est possible que quelques gouttes de sang viking coulent dans ses délicates veines bleues. Mais elle est alsacienne, native de Colmar, tout comme son père, sa mère et ses grands-parents. C'est dans la capitale du Haut-Rhin qu'Audevert l'a rencontrée, sur les bords du canal, dans un bistrot de la Petite Venise. Elle semblait égarée, son visage triangulaire barbouillé de rimmel, les doigts serrés sur son verre de vin blanc, des miettes de bretzel accrochées à son pull. Il faut dire qu'elle avait bien du chagrin. Ses parents disparus dans un accident de voiture l'été dernier et son petit ami enfui avec sa meilleure copine. La brune Audevert avait recueilli les peines de la blonde Ingrid, l'avait consolée en la pressant contre sa généreuse poitrine, puis lui avait parlé de la quête, de la mission, de la révélation. Ingrid n'avait pas compris l'histoire de Florine Murgot, de son châtiment, de sa résurrection, de sa soif de vengeance. Elle n'avait pas non plus l'obligation de 5 épouses pour Constantin, mais elle avait bu avec avidité et délice le Gewürztraminer que lui offrait sa nouvelle amie au nom si curieux.
Merci. Petite alors, parenthèse. Voilà.
Alors, on fait une parenthèse.
Alors, Florine Murgot, donc, est née au XIVe siècle, et puis elle est morte, enfin, elle est peut-être morte au XIVe siècle, on n'en sait rien, en fait. Mais ce que je dois quand même remercier mon ami Charles Hansé, qui m'a fourni une documentation très, très, très épaisse sur cette période. Je sais tout sur les mœurs de ces gens-là, sur les gens qui régnaient sur la Lorraine à cette époque-là, sur la façon dont s'articulaient les évêchés, les duchés, les prieurés. Enfin bref, j'ai une documentation qui représente en gros 5 à 6 fois la taille du chapitre donc, que j'ai écrit. Mais je me servirai un jour du reste pour faire un autre roman.
Hélène Ingré, notre chère belle Hélène, animatrice. Il faut que tu viennes, hein, parce que j'ai qu'un petit câble. J'ai tout petit, moi. Oh oui, on te moque.
Hélène, qui est vosgienne, attention.
Oui.
De Bussan, née native de Bussan, résidente de la Bresse.
Certainement que vous avez déjà abordé la question avant que j'arrive, et excusez du retard. Et simplement, au niveau donc, de cet ouvrage qui a lieu sur le Honeck, est-ce que vous avez déjà, enfin disons dans le secteur du Honeck, est-ce que vous avez déjà fait une présentation sur les Hautes-Vosges? Parce que quand j'entends les extraits, vous parlez de l'auberge du sommet, bah, tout de suite, bah, moi je vois la terrasse, etc. Et je me
mais
dis
moi
que...
aussi.
Oh, on voit qu'on a les mêmes lieux de perdition, hein, et puis devant un petit blanc. En plus, je le conseille, mais ça sera après. Bah, je le dis quand même, c'est pas le sujet. Mais vraiment, l'auberge du sommet, hein, je dis bien du sommet.
Oui, j'entends bien.
Excellente.
Mais il faut y aller à pied, il faut pas y aller en voiture.
Voilà, hein. Et vous avez un coucher de soleil, et vous avez, enfin vraiment, c'est qualité prix. En plus, on peut dormir sur place. Donc on peut. Sans modération, on peut faire. Je voulais surtout savoir si vous aviez déjà présenté votre ouvrage sur ce secteur, sachant qu'il existe depuis peu de temps une Gazette du Honeck qui serait, je pense, vraiment preneur de votre présentation de votre ouvrage, dans lequel il pourrait, dont il pourrait reparler dans un futur. Exemplaire de la Gazette.
La Gazette du Honeck qui va le traduire en vosgien.
non, mais en plus, la Gazette du Honeck, c'est très bien vu. Ce sont les professionnels du secteur, mais en même temps, qui peuvent étayer aussi les propos de leur Gazette avec une vision culturelle. Voilà.
Mais j'attends avec impatience que vous me donniez l'adresse de ces gens. Et, puis, voilà.
Et je veux bien vous faire l'entremetteuse, comme que ce sont voilà, que des hôteliers. Que des hôteliers des restaurateurs, je me ferai payer en Gewürz.
Voilà, pas de souci.
En liquide, pardon. Non, je voulais dire en liquide, en Gewürz.
Pas de souci. Alors, pour répondre à votre question, j'ai présenté mon ouvrage donc, dans une librairie à Gérardmer, où j'ai eu... Gérardmer. Et donc, j'ai eu un certain succès, effectivement, et j'ai eu surtout deux articles, dans l'Écho des Vosges, et puis l'autre dans un journal électronique qui est sur la vallée.
Le meurtre à Rouet, maintenant meurtre au Honeck. Est-ce que tu vas continuer dans cette veine-là? Est-ce que tu vas être l'Agatha Christie masculin de Rouet, quoi, en quelque sorte?
Oui, je vais faire meurtre au passage Bigo la prochaine fois.
Ah oui,
c'est ça. Non, mais meurtre aux trois maisons, pourquoi pas?
Ah oui,
il y a de
quoi faire.
C'est vrai que ça fait gorge.
J'ai une question sur le making-of. Comment est-ce que tu procèdes? Tu écris phrase à phrase? Tu as un plan? Comment ça se passe?
Non, je suis un très, très, très mauvais élève, moi.
C'est vrai?
Je suis un très, très mauvais élève. Lorsque j'interviens comme... pas comme formateur, non, j'aime pas ça. Mais comme écrivain, j'explique aux gens qu'il faut avoir l'idée en place et tout, faire des plans, etc. Pendant 40 ans, j'ai fait des plans. J'étais informaticien, je faisais des échelles et des plans Moraes, je sais, des plans de charge et des plans de décharge. J'ai fait ça pendant 40 ans, ça ne m'amuse pas. Et donc j'écris, en fait, moi j'ai aucun mérite. J'ai une idée de départ, j'ai une situation de départ, et après je regarde les gens qui vivent et j'écris ce qu'ils vivent. Alors évidemment, ça pose d'énormes problèmes, parce que des fois, il y a les personnages qui s'en vont. Hein, ils restent pas là, forcément. Ils disparaissent. Ils vont pas au bon endroit. Donc après, je suis un peu embêté. Et là, à la fin, c'est ma directrice littéraire qui me dit « Dis donc, qu'est-ce que t'as fait, là ?» Parce que là, le personnage que tu donnes là, où c'est qu'il est rentré, celui-là, je sais pas, on va vérifier. Donc, Donc après, je remets un petit bout de paragraphe dans un petit coin pour faire joli. Après, elle me dit, mais dis donc, attends, je comprends pas. Parce que celui-là, il s'appelait Paul, maintenant il s'appelle Jacques. Oui, non, mais c'est normal, c'est parce que il s'appelait... Et là, en plus, quand je dis Paul et Jacques, je suis gentil, parce que généralement, c'est pas comme ça qu'ils s'appellent. Vous avez vu déjà quand même que mes personnages féminins s'appellent quand même Bruno, Audevert, Clotilde. Non mais c'est alors j'explique dans le bouquin pourquoi, hein, c'est parce que ce pauvre Constantin d'Armélis avec 5 femmes, il s'en sortirait pas sinon. Donc il a choisi une bonne fois pour toutes 5 noms. Et il les a habillés, donc il y en a une qui habille en mauve, l'autre qui habille en vert, l'autre qui habille en jaune, l'autre qui habille en rose, et l'autre qui habille en bleu. Et là, il n'y a plus de soucis, il se souvient des prénoms, il dit, il n'y a pas de soucis, au de vert, elle t'habille en mauve. Et donc, voilà, c'est ça, donc il a un code couleur pour retrouver ses femmes.
Alors, Elvire ou Virginie, alors est-ce que c'est difficile de corriger les écrits de M. Rémy Debord, ou de les reprendre, de vérifier leur véracité?
Alors, je ne les corrige pas vraiment, en fait. À chaque fois, il me renvoie des chapitres au fur et à mesure qu'il écrit. Et à chaque fois, je lui dis si ça colle avec ce qu'il fait au début, si ça part dans le bon sens, si on sent du suspense, parce que comme là, c'est du polar. Voilà, lui, ce qu'il veut savoir, c'est si l'intrigue est vraiment suscitée, si le lecteur a envie de continuer. En gros, c'est ça. Le plus compliqué, c'est à la fin, parce qu'il a la sale manie de toujours inverser ses chapitres. Bon, celui-là, c'était pas le pire. Le pire, c'était Nereia, parce que c'était de la science-fiction, et avec qui traversait des périodes très, très grandes d'histoire. Donc, en fait, il écrit 4-5 chapitres, il me les envoie, il en réécrit 3 autres. Après, il me leur envoie le truc à chaque fois corrigé depuis le début, mais il me remet pas les chapitres dans le même ordre. Alors, il faut relire tout depuis le début pour voir si c'est toujours cohérent. Il adore jouer à ça, quoi. Il fait le shaker avec ses chapitres.
Le coup sur 300 pages.
Voilà. Et donc, voilà. Après, moi, je ne m'occupe pas de la correction du style ou de l'orthographe ou des choses comme ça. Hein. Je m'occupe juste de l'intrigue, de la cohérence et de voir si vraiment ça continue à éveiller l'intérêt du lecteur. Donc, des fois, on a des petites prises de tête, hein, parce qu'il n'est pas toujours d'accord. Il n'aime pas bien.
Ça barde.
Mais non, j'essaye de lui expliquer, en fait, ce que j'ai voulu dire. Elle me dit, non, c'est pas ça.
Voilà. Et là, l'autorité paternelle ne joue pas.
Ah non. Non, je fais le... Attends, je suis... j'ai une directrice littéraire, c'est elle qui se débrouille avec les auteurs. Hein.
D'accord. Très bien.
Ouais. Enfin, avec tous les auteurs. Des fois, il y a des petits arrangements, mais des fois, je ne veux pas caler.
Des petits arrangements en famille.
Ouais, ouais. Ou alors, je suis obligée de m'y prendre à plusieurs fois, de lui dire, tu vois, hein, ce que je t'avais dit, tu vois, là, ça prouve bien que ce que je t'ai dit sur le chapitre-là, bah, ça passe encore moins sur celui-là. Alors, il finit par caler, à l'usure.
Ah, Ariel. Ariel Christoflo, notre chère Ariel.
Bonjour tout le monde. Oui, Charles Ancet parlait tout à l'heure de Pellot. Effectivement, Pierre Pellot aime les atmosphères bien, bien ambiguës comme ça, les glauques, des caractères très trempés, des femmes aux mœurs légères, que moi j'apprécie particulièrement. Donc toi, tu me plais bien, effectivement, je crois que je vais acheter ton bouquin. Est-ce que dans la vie, les gens, tu les trouves un peu fades? Bonne question.
C'est vrai que pour un écrivain, redescendre sur Terre, c'est vrai que les personnages, enfin les gens qu'on côtoie généralement sont assez normaux. Alors que nous, on vit dans la normale en permanence. Mais faut pas croire, hein, quand on lit les journaux, quand on regarde les actualités, on se dit quand même qu'il y a des personnages qui sont bien hors du commun. Heureusement, on les rencontre pas tous les jours, mais des salauds, il y en a plein des wagons. Des filles de mauvaise vie, il y en a plein les wagons aussi.
Pourquoi elles t'inspirent, ces gonzesses-là, particulièrement? Est-ce que tu as écrit de l'érotisme aussi, hein?
J'ai écrit de l'érotisme, mais là, c'était de l'érotisme gentil. Hein, c'était un niveau...
Ah, l'érotisme, c'est toujours gentil,
non,
en
mais
général.
Si, c'était gentil. En fait, c'est une histoire d'amour. Bon, un peu torride, mais une histoire d'amour quand même.
Mm-hmm. En tout cas, c'est un contexte que tu aimes bien, quoi. C'est les bars, c'est les gens un peu troubles, c'est les gens qui ne trouvent jamais leur place, toujours entre deux personnes, deux vins, deux vies. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Hein.
Malthus, tous les défauts et tous les travers de Malthus sont chez un de mes amis. D'ailleurs, j'ai récupéré tous ces travers, tous ces gimmicks, toutes ces idées bizarres pour fabriquer Malthus. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut en penser, il m'en veut pas. Lui, on est très fier. Il est très fier d'être Malthus.
Parle-nous un petit peu de ta nouvelle vocation, à savoir être auteur de pièces de théâtre radiophonique.
Ah, ça, c'est très amusant. Ça, c'est un monsieur dans un couloir à RCN qui m'a dit « Tiens, ce qui serait bien, c'est que tu fasses des pièces de radio. Ça serait vachement bien. » J'ai dit « Bon, bah, on va essayer. » Et puis, j'ai essayé, puis j'ai aimé. Donc là, j'en ai fait une, qui est passée hier. J'en ai écrit une deuxième, d'ailleurs, que je t'ai envoyée, et qui est en bonne voie de construction aussi. J'en ai une troisième qui est en tête, là, qui va plaire à Ariel, puisque elle m'a demandé un rôle, je lui ai donné un rôle. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le quatrième, mais ça vient.
Alors, pour le quatrième, je peux te suggérer quelque chose.
Dis-moi.
Dans le quatrième, est-ce qu'on pourrait avoir un révérend père, un prêtre, un moine qui irait très bien à notre ami Charles au président? Ça irait très bien comme rôle.
Un excellent confesseur.
Oui. un moine dévoyé, alors. Je vais voir le moine dévoyé, je vous fais ça.
Les trois papas de Mandarine. Mandarine a trois papas. Un papa noir qui est au cimetière. Un papa bleu qui a épousé maman. Un papa rouge qui vient la nuit, quand maman a mal au ventre. Mandarine aime bien son papa noir à qui elle parle, son papa bleu qu'elle écoute. Mais Elle n'aime pas son papa rouge. Son papa bleu et son papa rouge, c'est le même papa. Il est bleu le jour, parce qu'il a les yeux bleus, une chemise bleue et un pantalon bleu. Il devient rouge la nuit, parce que ses yeux sont rouges et ses joues écarlates. Alors, les jours où maman a mal au ventre, Mandarine se cache sous les draps. Mais son papa rouge vient aussi sous les draps et Mandarine pleure. Son papa rouge lui dit « C'est normal. Tous les papas qui aiment leur petite fille font ça. » Alors, Mandarine a demandé à sa copine « Est-ce que ta maman aussi a mal au ventre ?» Et quand elle a répondu oui, Mandarine a eu du chagrin pour elle.
Le cul de la potière. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un village reculé, une potière si réputée que l'on venait de fort loin pour acheter ses pots. Ils étaient beaux et fort pratiques, et des fesses princières s'y seraient abandonnées. Il faut dire qu'ils étaient taillés d'importance, à l'image de la potière, qui avait fait le moule à son usage. Pour son cul d'importance, large, rond et ferme, admirable et admiré, un cul magnifique, un cul majuscule. Or, il arriva qu'un jour, la femme d'un boutiquier enrichi voulut se procurer l'un de ces fameux pots de chambre. Elle en avait les moyens, se disait-elle. Hélas, la Péronnelle, en rentrant chez elle, voulut séance tenante l'essayer. Elle y posa son dernier flasque, son cul dérisoire, son cul minuscule, et s'y engloutit. Moralité teintée d'immoralité. L'argent ne fait pas tout. Pour avoir du pot, il faut d'abord avoir du cul. Télédon. Par un beau samedi de décembre, chaque foyer a donné 3 euros de redevance télé. 3 euros, c'est presque rien. Environ 20 de nos francs anciens. 3 euros pour quoi faire ? 3 euros pour guérir ces malades télégéniques, souriants et confiants, aux mains de cet animateur triomphant. 3 euros pour payer ces chanteurs sympathiques, venus là pour aider ces tétraplégiques, à moins que ce ne soit pour des raisons plus démagogiques. 3 euros pour voir des braves gens courir et se dépenser pour récolter un peu d'argent. 3 euros pour pallier les carences d'un monde politique, plus soucieux d'économie que de recherche scientifique. 3 euros pour emballer le sinistre quotidien, de malades souffrant dans l'indifférence la plus totale, le reste du temps. Voilà un impôt bien sinistre, bien cynique aussi, qui masque une misère derrière des réjouissances. Profitez bien de ce spectacle business, organisé rien que pour vous, rien que pour apaiser votre conscience. 3 euros, après tout, ce n'est pas grand-chose pour racheter enfin les médiocres lâchetés de notre quotidien.
Je vais essayer de vous lire un poème de Rémi Debord. Et oui, voilà. L'enfant au caillou. L'enfant n'a pas choisi le caillou. Il n'a pas pu. Il n'a pas eu le choix. Et pourtant, il aurait aimé le choisir. Ce caillou est un symbole. Il aurait aimé un caillou rond. Rond comme la terre. Il aurait aimé un caillou brillant. Brillant comme le soleil. Il aurait aimé un caillou noir. Noir comme sa peine. Mais il n'a rien trouvé de tel. Juste un morceau de béton effrité, tombé d'un mur éboulé. Juste un débris de sa propre maison qui a roulé à ses pieds. C'est la première fois qu'il va lancer un caillou. C'est pour ça qu'il aurait aimé un objet plus beau. Son caillou moche lui écorge la paume. Son bras n'est pas trop assuré. Il voudrait que ce premier jet soit le bon. Il a visé longuement, tendu son bras. Il a mis toute sa forme dans ce geste. Le caillou a atteint sa cible comme dans un rêve. En pleine face, en plein front. La réplique a été immédiate. Lui aussi a reçu un caillou en pleine face. Un caillou bien rond, bien poli, bien brillant. Un petit caillou d'acier. L'enfant n'a pas choisi la guerre. Il n'a pas pu. Il n'a pas eu le choix. Et pourtant, il aurait aimé. Il aurait choisi la paix.
Donc c'était une première. Hein. On a fait comme on a pu. On a surtout fait appel à Rémi pour animer cette première soirée. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres de ce type si David toujours nous prêtait ses marmites. Je pense que bon, l'endroit vous a plu, c'est sympathique. Je pense que le concept est intéressant. Donc on va essayer de le refaire chaque fois qu'on peut. Et l'idée, c'est donc que chacun puisse amener quelqu'un qui n'est pas, qui connaît pas un peu la littérature, et parce que on va pas faire ça contre les gens de la DIL. L'idée, c'est de s'ouvrir et de que les gens qui connaissent pas les écrivains locaux puissent voir qu'ils existent vraiment. Et qui boivent aussi, et que qui mangent, et qui peuvent parler de ce qu'ils font. Voilà.
Bonjour, je m'appelle David, j'ai bientôt 40 ans et je suis assez content. Mais non, ça craint quoi. Et bref quoi, première soirée au Laissez-nous cuire avec Radio Caraïbes pour une soirée littéraire quoi, en fait. Et je trouve ça excellent. Des rencontres rigolotes, on a retrouvé des gens aussi un peu aussi, et j'ai envie de dire juste une chose, enfin vive Tronville, le 5-5 Connection, allons-y vite fait quoi, et puis en même temps on remet ça si c'est possible, il n'y a pas de souci quoi, donc on embrasse tout le monde quoi. Voilà. Allez, salut.
Et bien voilà, retour dans nos studios. C'était une soirée littéraire, mais ô combien joyeuse d'ailleurs. Les quelques petits embryons de discours à la fin vous laisseront deviner que, eh bien, nous étions bien gais. Et pour une première, je pense que ce fut une réussite. Et nous irons de temps à autre planter nos micros comme ça, dans ce genre de réunion autour d'un bon repas avec un écrivain et puis les amis qui aiment lire et écrire, notamment grâce à l'action de l'ADIL, l'association de défense des illustrateurs et écrivains lorrains, association que l'on doit à l'initiative, et on ne le dira jamais assez, de notre ami Marcel Cordier. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page. Au revoir. The